Bon mercredi matin, fait beau, fait chaud, on peut pas demander mieux. Alors aujourd'hui, là, c'est impossible d'avoir la baboune. Donc on a le sourire, on se promène, on est de bonne humeur, avec un maximum de 31 degrés. Et là, je regarde même à plus long terme, quand même, là, on va se le dire, il fait beau au Québec, partout. Demain, 28 degrés avec, oui, possibilité d'averse ou d'orage. Mais dans ce temps-là, on se dit quoi? Que ça va juste faire du bien au terrain, hein? Ça va faire du bien aux plantes également. Et on va en parler d'ailleurs d'horticulture avec une nouvelle collaboratrice à l'émission, Marthe Laverdière, qui nous fait toujours sourire sur les réseaux sociaux. Vous l'avez connue d'ailleurs avec ses vidéos. Elle a fait paraître également 2 livres, donc elle va nous donner des conseils à toutes les semaines. Et si vous avez déjà des questions à lui poser, ben vous pouvez nous écrire par courriel. Ça nous fait tellement plaisir de vous lire. Alors, vous allez sur le site du 98.5fm.ca. Donc, comme ça, vous allez pouvoir venir nous donner plus d'informations sur les questions que vous voulez poser à Marthe. On va aussi parler voyage avec Guillaume Duranceau-Thibert, qui lui est le genre de voyageur à partir presque sans destination. C'est-à-dire que oui, il va avoir le billet d'avion, comme cet hiver, là, il était au Brésil, mais il ne sait pas nécessairement où il va aller coucher, qu'est-ce qu'il va faire ou combien de temps. Disons, moi, ça me stresserait un petit peu. Donc, il va nous donner ses conseils de voyage. Et tout d'abord, ben, on l'a vu beaucoup dans l'actualité, le marché de l'immobilier va bien. Puis j'ai l'impression que je répète à peu près la même chose au trimestre, c'est-à-dire les vendeurs, évidemment, il y a beaucoup d'argent à faire. Pourquoi? Parce qu'il y a peu de maisons sur le marché, les prix ont augmenté. On parle même d'une augmentation de 7 % par rapport au même mois l'an passé. Il y a moins de maisons, comme je le disais, sur le marché, donc qu'est-ce que ça fait? Ça fait grimper les prix. Il y a de la surenchère également. Est-ce que ce boom de l'immobilier, ben ça vous donne envie de vendre votre maison? Je pose la question, mais en même temps, je me dis, c'est parce que si vous vendez votre maison, à moins d'aller ailleurs en région, de déménager, c'est parce qu'il faut en acheter une autre aussi. Donc, c'est une problématique pour ceux qui désirent acheter et surtout les premiers propriétaires, je pense aux plus jeunes aussi. On va en parler avec Daniel Adam, qui est courtier immobilier agréé chez l'expert immobilier PM. Bonjour, Daniel.
Bonjour.
Quand je regarde les chiffres comme ça, vous, ça fait quand même plusieurs années que vous êtes dans le domaine. Oui. Est-ce que ça vous surprend à chaque fois? Est-ce que vous dites à un moment donné, ça va arrêter?
Bien, c'est ce qu'on se dit. Ça fait 31 ans que je suis dans le métier depuis 88. J'ai vu des taux d'intérêt à 15, 20. J'ai même déjà eu personnellement 21 %. Là.
Oh, ouais.
Un petit 6 mois. Okay. Mais puis là, on regarde l'économie. On dit tout le temps, il y a une vague, ça va durer 6, 7, 8 ans. Mm-hmm. T'sais. Là, ça fait 10 ans que ça dure. T'sais. Ça fait 10 ans qu'on est en 9e manche. Okay? T'sais, je te dirais, l'immobilier, c'est comme une game de baseball. T'sais, au baseball, on sait quand est-ce que ça commence, on ne sait pas quand ça va finir. Au hockey, c'est 20 minutes, 20 minutes, 20 minutes. Mais l'immobilier, c'est pas du hockey. C'est un peu comme du baseball. On est en 9e, on a-tu un strike, 2 strikes, 3 strikes? On ne sait pas. On sait que les taux d'intérêt sont très bas. On voit ce qui se passe aux États-Unis. On voit ce qui va se passer. Donc, aux États-Unis, les élections en 2020 qui s'en viennent. Le président Trump veut se faire réélire. Donc, il va influencer peut-être la Banque fédérale pour garder les taux plus bas. On a quand même des taux élevés si on compare à l'Europe. Mais tu sais, on est un peu prédateur de ce qui se passe aux États-Unis. Si les États-Unis baissent, est-ce que le Canada va suivre? Pas certain. On est assez stable actuellement. La Banque du Canada ne bouge pas. Fait que donc, pour les milléniums qui veulent acheter, puis c'est la question qu'on se posait un petit peu tantôt, c'est que ces jeunes-là, aujourd'hui, ont des emplois un peu plus précaires. Oui, il y a beaucoup de nouveaux emplois. Il y a des nouveaux immigrants ici qui arrivent aussi beaucoup à Montréal. Ça crée de nouveaux emplois. Il y a 50 % des gens qui viennent. Donc, la création d'emplois à Montréal, c'est important. Mais ces gens-là ont des emplois partiels ou temporaires ou de la maison. Ce qui fait que les gens de mon âge, les bébés boomers, qu'on avait des jobs, genre tu rentrais de 9 à 5 du lundi au vendredi pendant 20 ans, tu avais ton fonds de pension, on n'en voit presque plus de ça. Les gens travaillent beaucoup de la maison. Donc, ça rend les gens de 45 ans et moins beaucoup plus insécures. Beaucoup plus insécures versus l'achat. Ils vont plutôt se diriger vers la location. Et c'est ce qu'on voit actuellement à Montréal. Montréal, actuellement, il se construit 1000 logements de locatifs versus 800 condos, ce qui est une inversion depuis un an. Avant, ça construisait plus de condos et moins de locatifs. Mais le marché étant à la tendance de vouloir changer à cause de l'immigration et des milléniums, on va vers le locatif. Donc, ce qui fait, ce que tu disais tantôt, c'est qu'on a moins d'inventaire. Quand on dit moins d'inventaire, c'est 20 % moins d'inventaire.
Hey, ça commence à faire beaucoup.
C'est
là.
Énorme. Ouais. T'sais. Pourquoi? Ben, c'est un peu la conclusion que tu avais tantôt aussi en disant, ben, c'est parce que les gens qui vendent à Montréal, qui veulent racheter à Montréal, Montréal, c'est un marché de vendeurs. Montréal, je parle de Montréal, Grand Montréal, là, Longueuil, Laval, là. Sauf Vaudreuil-Soulanges, malheureusement. Il y a une baisse dans ce coin-là.
Okay.
Ouais.
Ouais.
Fait que si tu veux vendre à Montréal, t'en l'as à Vaudreuil-Soulanges, c'est moins 11 % présentement. Okay. Sauf que tu vas te taper un petit peu de trafic.
C'est ça, pas mal. Oui.
Pas mal, ouais, c'est ça.
Oui. Mais actuellement, dans le marché immobilier, puis on dit ça augmente, mais à un moment donné, puis je sais que vous avez votre boule de cristal, mais à long terme, là, qu'est-ce que ça va faire sur le marché?
Qu'est-ce que ça va faire? Écoute,
parce qu'on ne peut pas toujours augmenter d'année en année autant. Et puis je sais, bon, tant que les taux d'intérêt vont être bas, ça risque de rester quand même comme ça. Mais il reste que, moi, je m'imagine une petite famille qui veut pas aller nécessairement sur la Rive-Sud. Puis même sur la Rive-Sud, là, on s'entend, les prix aussi ont augmenté de beaucoup dans les dernières années. Mais qui veut rester en ville, qui désire s'acheter pas nécessairement une grosse maison, mais même les maisons, disons, plus modestes, sont aussi extrêmement dispendieuses. Donc, arriver à la banque, donc on va suffoquer les jeunes familles, à long terme, ça n'aura pas un effet justement de faire en sorte que ces jeunes familles-là vont être surendettées?
Bien, il y a deux ans, la SCHL a créé ce qu'on appelle le stress test ou le B20 là, dans la norme de ce qu'on, quand on parle de notre critère de courtier. Et ce qu'elle fait, c'est que la SCHL voulait empêcher les marchés canadiens de se surendetter. Mais c'était surtout pour freiner un peu le marché de Vancouver et de Toronto, un peu comme la taxe de 15 % qu'ils ont mis sur les étrangers à Vancouver et à Toronto, et ça a fonctionné, OK? Mais ça reste que ce stress-là a donné à, je dirais, 20 % des familles plus de possibilités d'acheter. Parce que le condo moyen de Montréal tourne autour de 250 000. Les gens pouvaient se qualifier avec le nouveau stress test qui représente 20 % Ça veut dire que ce que je pouvais me payer de 250 000, maintenant, je me qualifie pour 200 000. À Montréal, 200 000, là, c'est assez rare, merci.
Oui, c'est rare,
à moins
de
te ramasser à Rivière-des-Prairies, loin, là, tu peux en avoir. Mais Montréal, centre-ville, Rosemont, oublie ça, là, en bas de 250 000. Puis les contracteurs qui construisent le centre-ville dans le condo vont construire 250 000 piastres, mais ils vont faire 400 pieds carrés. Vont faire des électroménagers de 24 pouces.
C'est plus petit.
Tout se rapetisse.
Mais pour une famille, là, tu peux pas.
Famille ou ça.
Mais non, c'est ça, c'est pour les couples.
C'est les petits couples, les étudiants. Tu sais, à Montréal, il y a 6 universités, si on calcule les universités anglophones. Puis bon, tu sais, il y a quand même une énorme masse d'étudiants, OK, des étudiants étrangers qui viennent ici, donc en location. Moi, j'ai eu pendant quelques années des étudiants qui venaient de Boston, hein, qui étaient étudiants à McGill en médecine, et les parents SMAT de l'époque, puis on le voit actuellement à cause du dollar canadien versus dollar américain, venaient acheter des condominiums à Montréal pour leurs enfants parce que ça leur coûtait moins cher d'acheter que de louer. Et en plus, ils disaient tout le temps, Daniel, de moi un 2, 3 ou un 4 chambres en plus. Pourquoi? Ils sous-louaient à d'autres d'étudiants, le même appartement, même condo.
Ce qui faisait payer l'hypothèque, finalement.
C'est ça. Et quand ils revendaient, les derniers que j'ai revendus, les Américains étaient morts de rire. Ils ont fait 100 et 150 000 de profit à la revente. C'est épouvantable. Hein? Épouvantable, en tout cas. Bon pour eux autres.
Oui, mais en même temps pour le marché. Mais est-ce que c'est encore, et ça les gens disent, bon, est-ce que c'est de faire, quand tu achètes un immeuble, est-ce que c'est... Ça peut donner beaucoup, beaucoup de sous, mais il faut le garder longtemps. Là. C'est-à-dire que c'est pas...
L'immobilier, ça sera toujours, que tu fais 30 ans, je fais ça, c'est toujours une question de temps. C'est sûr que si tu achètes quelque chose pour revendre rapidement, ce qu'on voit dans le marché ou dans les clubs immobiliers qui enseignent beaucoup, le flip, le fameux flip.
C'est pas toujours un investissement.
C'est pas toujours des investissements. C'est des affaires rapides, bing-bing, on passe à d'autres choses. Mais si je veux acheter une maison, puis je veux rester là quelques années, comme je travaille avec un couple présentement, bon, c'est des milléniums, ils vont acheter quelque chose d'assez dispendieux. Mais Daniel, on est ici pour 15-20 ans.
OK,
dans 15-20 ans, pas de problème, ça va valoir peut-être 2 millions, on ne sait pas. Mais le marché immobilier, tu me disais, ça monte. On est en Amérique du Nord, le marché le moins cher, OK, pour différents facteurs. On a eu pendant plusieurs années le facteur de la langue, la politique, tu sais, bon, la séparation potentielle du Québec, la chicane, la péréquation, bon, tu sais, excuse-moi, il y a beaucoup de choses qui faisaient que le Québec était moins envié, si je peux m'exprimer ici, tu sais. Mais là, ça diminue de plus en plus. Le phénomène de dire que le Québec va se séparer, c'est de moins en moins possible, tu sais. Puis bon, on commence à avoir beaucoup plus d'immigrants. Fait que ça change la donne qui fait que le marché monte. Puis on n'est pas Toronto, on n'est pas Vancouver, mais on n'est pas cher. Et ça, c'est dur à avaler pour bien du monde de dire qu'on n'est pas cher.
Oui, parce que je regarde le prix d'une maison unifamiliale dans les derniers chiffres, là. Oui. On parlait de 352 000 $.
Oui.
ça commence à faire du bidou, là.
Oui.
C'est quand on dit c'est pas cher, puis je sais que vous allez me dire qu'à Vancouver, c'est 1 million, 1,5 million, là, la maison moyenne, mais quand même.
2-3, même.
Oui, 2-3.
Pour les terrains vacants,
oui, c'est ça.
Mais c'est sûr que ça. Comment je te dirais ça? Quand j'avais des taux d'intérêt dans les années 90 à 15 % les maisons étaient à 100 000 parce que ce que je pouvais me permettre, c'était un paiement par mois. Ce que les gens peuvent se permettre, c'est un paiement par mois. OK? Fait que le taux d'intérêt qualifie le paiement. OK? Fait que si mon taux d'intérêt baisse de moitié puis de 3/4 puis est rendu à 2 ou 3 % actuellement, le paiement reste le même, mais le montant a augmenté. C'est sûr que les gens vont dire, t'as pas d'allure dans ce que tu dis. Oui, ça a de l'allure. Ce que tu te qualifies, si tu te qualifies pour, tu te qualifies pas pour un prix de maison, tu te qualifies pour un paiement. Et le paiement te donne la possibilité d'aller jusqu'à 300 ou 400 000, peu importe.
Mais en même temps, il ne faut pas oublier que quand on se qualifie pour le paiement, c'est bien beau, là, mais une maison, il y a comme tout ce qui vient avec.
Bien sûr.
Et qui n'est pas calculé nécessairement par la banque, évidemment. Donc, c'est à nous à faire souvent nos devoirs, puis c'est là que les surprises arrivent. Et on va continuer à en parler d'immobilier. D'ailleurs, si vous avez des questions à poser à Daniel Adam, qui est courtier immobilier, et peut-être que vous avez envie de vendre ou vous recherchez une maison. Puis on va revenir aussi sur la surenchère, parce que ça aussi, des offres multiples. Là, c'est rendu, il faut pratiquement donner notre CV quand on veut acheter une maison. Là, c'est complètement fou. Alors, les numéros de téléphone pour nous joindre, 514-790-9850, 1-866-790-9850. On s'intéresse à l'immobilier qui est toujours aussi en feu et on le répète. Et je me demande, puis pas que je le souhaite, mais je me demande quand ça va stagner, ne serait-ce que pas trop augmenter, parce que je pense toujours à ceux qui ont peut-être moins de sous justement pour s'acheter des maisons. On en parle avec Daniel Adam, qui est courtier immobilier agréé chez l'expert immobilier PM. Et on prend bien sûr vos appels, 514-790-9850. On parle avec Mélissa, bonjour.
Oui, bonjour, ça va bien?
Ça va bien, Mélissa, vous avez une question pour Daniel?
Oui, en fait, moi j'ai acheté mon condo il y a 10 ans à Hochelaga Maisonneuve, un grand 5,5, j'étais chanceuse. ça fait bien gentrifier. Là. Le quartier a vraiment changé depuis le temps, mais évidemment, nous, on aurait besoin de plus grand si on voudrait vendre. Et puis, je voulais savoir, on n'aimerait pas vraiment quitter l'île. Je voulais voir quelles étaient les options de quartier qui pourraient être le plus intéressant. Moi, j'ai eu la chance d'acheter 2 semaines avant la fin du zéro cash down chez Desjardins, ben, chez les banques en général. Donc, j'ai pas eu à verser de cash down à l'époque, mais là, je vais en avoir un. Je crois bien intéressant là, avec mais c'est ça, là, évidemment, on a beau vendre à un bon prix, il faut racheter après. Là. Puis je voulais savoir là, au niveau des quartiers de Montréal, qu'est-ce qui pourrait être encore intéressant avec un somme toute un cash down intéressant. Là.
Ben, dans les quartiers de Montréal, c'est sûr que les quartiers centraux, on va comme oublier ça. C'est sûr qu'au Hochelaga Maisonneuve, vous l'avez dit, gentrification, beaucoup d'augmentation. Il y a même des surenchères actuellement dans Hochelaga Maisonneuve. Je vous en souhaite une d'ailleurs quand vous allez vendre. Vous allez risque de vous arriver. 14 % de surenchères dans Hochelaga Maisonneuve.
14 %
C'est une maison sur 7. OK? Il y a beaucoup de courtiers dans Hochelaga Maisonneuve, parce que je le vois, là, qui vont inscrire une propriété. Disons que votre propriété vaut. On va dire un chiffre, là, 300 000. Okay, ça vaut peut-être plus, là, mais je vous donne un chiffre, là, 300 000. Le courtier qui est... Je vois des courtiers travailler actuellement, là, ils vont lister votre maison à 280 000. Pourquoi ils font ça?
Pour avoir de la surenchère.
Pour avoir de la surenchère. Okay? C'est une méthode qu'on voit actuellement, une maison sur 7. En tout cas, quand on voit les surenchères, là, c'est parce que ça a été listé trop bas. Okay? C'est soit que le vendeur a été sur du proprio puis s'est listé lui-même trop bas parce qu'il connaissait pas le marché, soit que le courtier a une stratégie de lister très bas pour créer une surenchère et malheureusement ou heureusement pour vous, là, t'sais, ça fonctionne. Okay? Il y a vraiment des surenchères. C'est sûr que là, on va tomber dans l'été, qui n'est pas nécessairement le meilleur temps pour vendre. Il faut comprendre aussi le marché immobilier. Le marché immobilier, il y a des vagues. Okay? La vague du Québec, c'est une vague d'hiver. Ça a l'air drôle à dire.
Ben oui, pourtant, j'aurais pensé avec le déménagement le 1er juillet.
Ben, parce que quand tu veux déménager le 1er juillet, il faut que tu le saches un petit peu d'avance.
Ouais.
Et les locataires qui ont jusqu'au 31 mars, en principe, pour dire aux propriétaires s'ils s'en vont, sont la première vague des acheteurs. Et c'est cette première vague d'acheteurs-là qui va acheter des unités à 250 000, des une chambre, des studios, des choses comme ça, qui va permettre à la deuxième vague, c'est des gens qui ont une ou des deux chambres, d'acheter des trois chambres, des cottages ou des duplex. Mais si la première vague du mois de mars... avant le 31 mars, n'achète pas. Cette deuxième vague-là n'existe pas. En tout cas, elle est beaucoup, beaucoup, beaucoup diminuée. Parce que c'est rare que les gens vont acheter sans avoir vendu. hein, dans les contextes actuels, même si les taux d'intérêt sont bas, à moins d'avoir une propriété où j'ai absolument pas d'hypothèque, ça peut arriver après peut-être 20 ans, là, tu sais, quand nous, on vient de vendre, ça faisait 27 ans qu'on n'a pas d'hypothèque, là, mais tu sais, mais c'était pas un bon critère.
C'est rare, ça.
Ben, mettons que c'est des situations particulières, tu sais. Cordonnier bien chaussé, tu sais. Oui. Bon. Fait que, on a vendu, mais tu sais, il y a des gens qui, ça fait 15, 20 ans, là, s'ils ont bien travaillé ça avec les taux d'intérêt qu'on a vécu, tu sais, nous, on avait des immeubles, on refinançait, puis le taux d'intérêt continuait de baisser. Fait qu'à un moment donné, ça s'améliorait, tu sais. Donc, où je vais aller avec, parce que là, le problème, c'est ça, on est dans un marché de vendeurs à Montréal, à peu près partout sur l'île. Dans l'unifamilial, dans l'West Island, c'est encore pire. C'est probablement le pire coin. C'est 30 % des maisons en surenchère. C'est hallucinant. OK, ça, c'est vraiment le West Island.
Non, mais là, c'est rendu qu'on veut acheter une maison. Donc, elle est listée moins chère. Mais là, on sait qu'on va aller en surenchère. Ouais. Donc là, il faut jouer un peu avec même pratiquement, oui, l'argent, mais notre personnalité aussi. J'ai même vu des gens qui donnaient un CV, qui essayaient d'arriver avec de l'argent comptant.
Mais c'est quand les gens vendent leur maison personnelle, il n'y a pas d'impôt. Ça change rien d'amener plus de cash ou d'avoir des enveloppes brunes. Hein? On n'est pas... Bon, en tout cas,
oui.
On va avoir des opinions. Oui. Bon, c'est ça. Si je vends un multilogement, c'est différent. OK, mais si je vends ma maison personnelle, je ne suis pas imposé. Fait que, tu sais, je vais aller essayer de la vendre la plus chère possible. Hein? Il n'y a pas d'impôt à payer, tu sais. Donc, pour répondre à votre question un petit peu, peut-être des coins comme Huntsic, tu sais, qui est un marché qui bouge, mais qui n'est pas aussi... tu sais, Villeray, ça bouge pas mal. Mais aussi qu'on passe le métropolitain vers le nord, c'est un petit peu moins. Fait que dans Huntsic, si ça peut vous intéresser, c'est pas si mal.
Il y a des beaux coins dans Huntsic aussi,
ouais,
sur le bord de l'eau.
Huntsic peut être intéressant comme secteur pour une famille. Si, passer d'Hochelaga-Maisonneuve à Huntsic, bon, oui, c'est une démarche, mais il reste que le métro passe, tu sais, mais les services, bon, tu sais, des choses comme ça. Fait que moi, ça serait peut-être mon conseil dans cette direction-là. Mais sinon, j'ai regardé avec des clients dans Verdun,
ça
boum, là, c'est hallucinant, tu sais. Verdun, la salle, la Chine, là, tu sais, c'est. Plus tu t'en vas, évidemment, vers l'ouest, là, puis c'est compliqué. Et Verdun a connu, surtout dans le multilogement, une variation incroyable parce que ce sont des vieux appartements comme ceux du plateau, des vieux immeubles. Puis tout d'un coup, c'était trop cher. Le sud-ouest est rendu excessivement cher. Et là, j'ai visité un cottage, mais 1 200 000 dans le sud-ouest. Je reste dans le sud-ouest, là, puis je suis fait comme... Aïe, aïe, tu sais, je veux dire, c'est rendu dans le million, là, facile. On est rendu là. Le plateau, on est déjà rendu là depuis 2 ans, là, tu sais. Mais là, ça commence à être sérieux, là, tu sais, pour s'acheter une petite maison.
Oui. Fait que,
donc, Huntsic, un petit peu dans Joux, un petit peu dans le secteur de Montréal, près de Place Versailles, un petit peu plus à l'est, là, tu sais, dans ce petit secteur-là.
Il faut magasiner.
En haut d'Hochelaga, pas en bas. Il faut juste. C'est vraiment, il faut être très précis, là, quand on cherche, là, tu sais.
Merci beaucoup, Mélissa. Bonne chance, justement, dans la vente de votre condo. On parle avec Alain. Bonjour.
Bonjour. Moi, j'ai une grosse interrogation quant à la surenchère. Il y a quelques années, pour aider une amie, on regardait le marché. Elle connaissait pas ça. Elle voulait mon aide pour acheter une maison. On a fait une offre et on a fait une offre à 10 % d'escompte de ce que l'inscripteur demandait. Et le propriétaire était insulté. Lui s'attendait à avoir plus que ce qu'il avait inscrit. Et notre courtier qui était avec nous, il dit, écoutez, il dit, offrez le montant de l'inscription. À ce moment-là, le propriétaire est obligé de vendre là, parce qu'on rencontre ses exigences. Puis là, ce que vous semblez dire, c'est que la surenchère fera en sorte qu'un vendeur pourra accepter 4-5 offres différentes puis prendre la plus offrante.
Oui,
supérieur à son inscription, il me semble que c'est illégal, ça.
Ce n'est pas illégal et il faut faire attention à ce que vous venez de dire. Là. C'est comme une légende urbaine de dire que si j'offre le prix au vendeur, il est obligé de l'acheter. C'est faux. Okay? Il y a eu une jurisprudence il y a quelques années et les courtiers, maintenant, dans leur listing, vont écrire ceci étant le but de vous présenter un prix puis vous faites l'offre que vous voulez. Bon, en tout cas, je me souviens plus de la terminologie, j'aurais dû l'amener, là, mais il y a vraiment une terminologie qui permet maintenant au vendeur de dire. C'est comme un encan. J'inscris au prix que je veux, puis j'accepte le prix que je veux. J'avais beau m'offrir le plein prix, je pourrais vous refuser. T'sais.
Non, mais il y a eu un changement. Il y a eu un changement dans la loi.
Ben, il y a eu, parce qu'il y a une jurisprudence, il y a eu une poursuite dans un dossier où quelqu'un avait offert un prix, un courtier avait offert le plein prix avec un client en répondant exactement aux conditions ce qu'il y avait sur MLS. T'sais, ligne pour ligne, à telle date, telle ci, telle ça. Il n'y avait rien changé. Il y avait à faire 100 % de ce qu'il y avait sur le listing. Parce que si on change une virgule, on peut dire, ah, tu vas avoir les électros, puis je vais pas te les donner, là. Bon, ça, la chicane peut commencer là-dessus. Et l'autre, elle va faire comme 5 ou 10 000 de plus. Alors, celui qui a gagné à 5 et 10 000 de plus, le courtier qui avait présenté l'offre au plein prix a poursuivi le vendeur pour la commission. Il a créé, donc, un nouveau quiproquo. Là. Mais pourquoi? Ben, j'ai dit, je t'offre exactement ce que tu veux.
Puis tu dis non.
Fait que là, paye-moi. T'sais? Fait que là, wow! Fait que là, ça l'a amené une jurisprudence qui a été... Puis la chambre d'immeuble, donc, s'en est mêlée. Tout le monde s'en est mêlé. L'association, l'OSC, tout le monde s'en est mêlé. Puis là, ils sont venus avec cette nouvelle réglementation qui dit, maintenant, le prix, ça peut être au-dessus... Il n'y a plus aucun problème.
Mais en même temps, il n'y a pas un danger de faire ça aussi pour soit le vendeur de peut-être pas avoir le prix. C'est-à-dire que, oui, on parle de surenchère beaucoup sur l'île de Montréal. C'est pas dans tous les secteurs. Mm-hmm. C'est pas partout au Québec comme non. ça. C'est-à-dire, si ma maison, je pourrais la vendre 400 000 parce que les autres se sont vendus de façon similaire, puis que moi, je décide par stratégie, parce que c'est une stratégie, mm-hmm. hein, on s'entend, ouais. 380 000, ben je peux peut-être rester pogné avec ça. C'est pas dit que quelqu'un va arriver avec un 400 000 ou un 420 000.
On n'a aucune obligation de vendre à 380 000 ou à 370 000 non plus. On peut aussi sortir du marché puis revenir à 400. T'sais, je veux dire, il y a des stratégies, encore là, en immobilier. Ouais. Peut-être que les gens ne les voient pas, là, mais il y a des propriétés qui sont à vendre, puis mettons, ils ne se vendent pas ou ça ne bouge pas. T'sais, aujourd'hui, avec l'informatique, les gens sont hyper informés. Les prix, parfois, dans des secteurs, on sait à la scène près combien ça vaut, puis il y a un vendeur qui va se tenter de mettre un 10-15 000 au-dessus, puis des fois, là c'est pas actuellement parce que c'est le marché de vendeur, mais dans un marché d'acheteur, là, il va se brûler complètement. Okay? Fait que là, le courtier, ce qu'il va faire comme stratégie, il va retirer la propriété du marché. On va annuler le contrat. Okay? On va le sortir du marché.
Ça paraîtra pas sur Internet, c'est
ça paraîtra pas nulle part. Juste les courtiers le savent. Ouais. Ils vont le remettre sur le marché et là, ça va réapparaître comme une nouvelle inscription. Autrefois, on avait les numéros MLS qui se suivaient numériquement. Fait qu'on savait par le numéro MLS si c'était un vieux ou un nouveau listing. Okay? Il y a 4 ans environ, la chambre d'immeuble a complètement changé les numéros aléatoires. Fait que là, le numéro MLS ne veut plus rien dire. Fait que tout ce qui nous reste comme données, c'est la date d'inscription du listing. Mmh. Hein, voyez-vous, c'est subtil.
Des petites stratégies quand même qui peuvent être intéressantes pour les vendeurs. Ouais. Marie, bonjour.
Oui, bonjour.
Oui, vous avez une question pour Daniel?
Oui, j'ai une question. Je cherche plutôt un conseil. J'ai mis en vente un condo à 3 chambres à Dorion, mais je n'ai pas d'appel. Ça ne se vend pas. On dirait qu'il y a des personnes intéressées.
C'est des questions de secteur, parfois.
Ouais, à Vaudreuil,
c'est, ouais. Ouais, c'est ça, je viens d'en parler. Là. Dans le secteur de Vaudreuil, là, c'est moins 11 % actuellement. Fait que vous êtes dans un marché d'acheteurs. Fait que vous deviez être... Faut être plus agressif, faut avoir la maison la plus intéressante pour le prix le plus intéressant, tu sais, versus les options que vous avez, tu sais. Vous êtes dans un marché d'acheteurs. C'est ça la réponse que je peux vous donner. Puis les statistiques.
Il est le seul condo à 3 chambres. Je trouve ça drôle ou plutôt étrange que ça se vend pas.
Vous n'avez pas eu de visite, vous n'avez pas eu de... Puis votre courtier...
Pas tellement. 2-3. Mais est-ce qu'il y aurait un conseil à me donner?
C'est quoi les comparables que le courtier vous a apporté lorsque vous avez mis en vente?
Il y en a mis j'ai même baissé le prix.
Écoutez, il faudrait que je voie la propriété pour être. Parce que là, je parle un peu, mais tu sais, habituellement, on est la seule 3 chambres du coin. Ça devrait être quelque chose de positif, hein, parce qu'il n'y en a pas des 3 chambres. On sait que c'est assez rare des propriétés 3 chambres. Est-ce qu'ensuite de ça, est-ce que c'est un semi-sous-sol? C'est un condo à quel étage, mettons?
C'est un 2e étage avec une galerie et un balcon en plus.
Bon, ça va.
C'est intéressant.
Que vous aviez dit que vous étiez un semi-sous-sol, vous aurez dit, bon, là, j'aurais donné une réponse en vous disant, c'est ce qui est le moins apprécié dans les condominiums, semi-sous-sol.
Non. Ensuite, c'est une belle propriété avec un foyer, il y a son stationnement, mais je trouve ça étrange plutôt qu'il n'y a pas des gens intéressés avec
mais votre courtier vous dit quoi, Marie? Est-ce qu'il vous donne des stratégies? Est-ce que vous êtes bien accompagnée là-dedans?
C'est ce que je me pose comme question.
Il y a peut-être ça aussi. Voilà.
Des fois, les courtiers, dans, quand on met une propriété en vente, il y a plusieurs facteurs. Là, le facteur de la mettre au bon moment en vente. Actuellement, c'est le moment le plus tranquille de l'année, juillet. Okay? Ce qu'on va voir sur le centre-ville, c'est les immigrants. Ce qu'on va voir, c'est les Américains. Ce qu'on va voir, c'est les étudiants qui viennent acheter pour l'automne. T'sais. Ça, c'est durant l'été. Mais le marché, comme j'ai dit tantôt, les gens déménagent le 1er juillet.
Ouais, fait que l'été, c'est plus compliqué peut-être.
L'été, c'est compliqué pour le local, si je peux dire ainsi. Ouais. Ça va reprendre en septembre, malheureusement. Est-ce que ce serait une bonne situation de la sortir du marché, la mettre hors marché pendant un mois, puis la ramener? Comme j'ai dit tantôt, les gens la sortent puis la ramènent. Oui. Puis on peut baisser à 2,99 au lieu de 300. C'est une psychologique, mais quand les gens font des recherches informatiques...
En bas de 300 000.
En bas de 300, elle va sortir.
Ça, ouais. Bien, bonne chance, Marie, justement, dans vos démarches pour vendre votre condo. Daniel Adam, merci beaucoup de toutes ces précisions. Puis j'ai l'impression qu'on risque de se reparler.
On en aurait long à dire
encore longtemps. Daniel Adam, donc courtier immobilier agréé chez l'expert immobilier PM.